Alors, eh bien, ce matin, j'aimerais qu'on prenne un texte pour commencer. On va en voir plusieurs, mais on va prendre un premier texte dans la Genèse. Genèse, chapitre 4, et nous allons lire les versets 1 à 7. Genèse, chapitre 4, versets 1 à 7. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, ce sera affiché derrière moi. Ici, en Genèse 4, il est écrit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. » Mais toi, domine sur lui. » Et là, dans ce premier texte, donc on voit deux hommes qui veulent offrir un sacrifice à Dieu. Et la question d'apporter un sacrifice à Dieu, c'est quelque chose de récurrent, hein, depuis toujours, dans l'histoire du monde, l'histoire religieuse, partout, hein, dans toutes les religions, l'histoire de l'homme en général, et même dans notre histoire personnelle. En fait, c'est humain, c'est naturel, que de vouloir offrir un sacrifice à Dieu, une offrande. Et donc, on voit ici, dans notre texte, que ça remonte très très loin, puisque ça remonte à l'origine, Adam et Ève, et leurs enfants, Caïn et Abel. Et dans cette histoire de Caïn et Abel, on a un résumé ici, on a une synthèse pour nous montrer ce qui est en l'homme et quelque chose qui ne va pas en l'homme. C'est dans ce désir d'offrir un sacrifice, d'offrir quelque chose à Dieu, eh bien on offre ses propres œuvres, on offre ses propres pensées sur le sacrifice. C'est ce qui est dans ce texte, on va le voir. Caïn a décidé d'offrir un sacrifice. C'était un laboureur, un agriculteur. Et donc, quoi de plus naturel ? Il prend les premiers fruits de la terre, il en fait une belle corbeille et il vient l'offrir à l'Éternel. Et là, qu'est-ce qu'il est écrit ? Mais l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et puis, on a son frère, Abel, lui est berger, il a des brebis. Mais il a aussi entendu de ses parents, d'Adam et Ève, qu'un sacrifice qui plaisait à l'Éternel, eh bien, c'était le sacrifice d'une bête innocente qu'on offrait sur un autel. Alors, eh bien, il prend un premier né de son troupeau et il l'offre en sacrifice. Et là, Dieu accepte. Dieu agrée son offrande. C'est écrit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alors, pourquoi ? Quand vous regardez un petit peu ce texte et vous allez pianoter un peu sur Internet, quelle est la pensée derrière ce texte ? Vous allez être surpris de voir que finalement ce texte est obscur pour beaucoup, beaucoup de gens. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas l'expliquer. C'est obscur et c'est même une pierre d'achoppement. Pourquoi Dieu n'a pas accepté le sacrifice de Caïn quand même ? Et on a là un principe qui est naturel, qui habite le cœur de l'homme. C'est une déformation, c'est la déformation du péché. Plutôt que de se conformer à la pensée de Dieu sur la manière d'offrir un sacrifice à l'Éternel, eh bien l'homme va chercher à offrir son propre sacrifice, selon sa propre pensée, selon son idée. Alors, eh bien, offrir une corbeille de fruits et légumes, c'était la pensée, c'était l'idée de Caïn. Peut-être que certains se diraient, mais c'est quand même bien, c'est gentil, c'est vraiment une bonne intention. Mais derrière la corbeille de fruits, vous savez, il y a un pécheur rebelle qui se cache. C'est ça en fait, un pécheur rebelle. Certes, c'est un beau cadeau pour le Seigneur, c'est tout son travail, c'est sa sueur, il a dû retourner la terre, il a planté, il a arrosé. C'était dur, mais il y a un acte quelque part de rébellion envers Dieu. Pourquoi ? Parce que Caïn, c'est un pécheur qui va chercher à plaire à Dieu par ses propres pensées. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est d'offrir ses propres œuvres à l'Éternel. Et c'est là une des racines du problème. L'homme pense, je sais comment je peux plaire à Dieu. Je sais ce que je peux faire. Je sais comment l'honorer, je sais comment le servir. Il pense que l'honorer par ses œuvres, par ses sacrifices, par ses efforts, eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Et là, Dieu repousse l'offrande. C'est un choc. Tandis qu'offrir un agneau en sacrifice, eh bien, ça, ce n'était pas la pensée d'Abel. Certainement, Abel, eh bien, son père et sa mère, Adam et Ève, ont compté, lui ont raconté ce qui s'était passé à l'origine et comment Dieu avait pris une bête et l'avait offerte pour pouvoir prendre la peau et les habiller, les revêtir, les couvrir. Et donc, par ses parents, il avait reçu eh bien, cette pensée que ben, le sacrifice qui plaît à l'Éternel, c'est de venir avec une victime qui est innocente. Et derrière ce sacrifice, bien sûr, il y a une image, l'image de Jésus-Christ. Et Abel n'a pas fait grand-chose pour cette bête qu'il a offerte. Bon, elle a grandi presque toute seule, à manger des pâturages. Et maintenant, eh bien, ça venait de Dieu, il l'offrait à Dieu, et c'était ce que Dieu attendait, c'était sa volonté. Et on voit que bah, dès l'origine, dès la Genèse, Dieu a établi le chemin pour s'approcher de Dieu. Il a établi le sacrifice qui plaît à l'Éternel, le sacrifice de Jésus. Alors pour Abel, lui, c'était une image. Jésus n'était pas encore venu. Donc c'était juste une image, voilà, l'image d'un agneau offert en sacrifice. Mais pour nous, 2000 ans plus tard, après Jésus-Christ, eh bien, on s'approche librement de Dieu par le sacrifice Jésus-Christ. C'est le seul sacrifice qui nous permet de nous approcher de Dieu et d'être agréés, acceptés et accueillis. C'est pour ça que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » C'est exclusif. Et ce qui est malheureux, c'est que le monde bien, continue à vouloir s'approcher de la divinité, du Créateur, de Dieu. On veut s'approcher de lui, mais par plein de choses, toutes sortes d'autres choses. Certains vont imaginer des pèlerinages longs et coûteux, comme il y en a maintenant, en ce moment. D'autres vont penser que voilà, les sacrifices qui plaisent à Dieu, ben, c'est des fruits, c'est des légumes. On va faire un petit autel chez soi, on va mettre de l'encens, des bougies, et puis on va faire ses offrandes. D'autres vont se dire, mais ce qui plaît à Dieu, c'est le don de ma vie, hein, et particulièrement pour aider ceux qui sont dans le besoin. Alors bien, je vais sacrifier toute ma vie pour me donner pour des causes justes. C'est bien, hein, c'est des bonnes causes pour les autres. D'autres plus religieux vont chercher à avoir une morale irréprochable, générosité, bonté, don de soi, service, hein. Et même si plusieurs de ces sacrifices sont louables humainement, eh bien, ce n'est pas le chemin que Dieu attend pour lui plaire. Pourquoi ? Parce que ça ne règle pas le problème du péché, en fait. Le problème du péché, il est toujours là, il est toujours dans la personne. Et la Bible dit que nos péchés mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Nous sommes coupés de Dieu et c'est impossible d'approcher de Dieu avec tous ces sacrifices. Le péché reste là, il demeure présent, il est l'obstacle. Alors que si on accepte la volonté de Dieu, et si on accepte de s'approcher par le sacrifice que Dieu a agréé, Jésus-Christ, alors bien, le ciel s'ouvre, le pardon est accordé, et là, bien, Dieu accepte ce sacrifice qui est saint, parfait, pur, Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est le seul sacrifice qui plaît à Dieu. Alors, eh bien, d'une manière pratique, qu'est-ce que Dieu attend d'un pécheur aujourd'hui ? Eh bien, c'est simplement qu'il s'approche de Dieu par Jésus-Christ, avec une prière sincère. « Seigneur, c'est par toi que je viens vers Dieu le Père. Seigneur, mon Dieu, accepte-moi. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour mes péchés. » J'aimerais vous encourager ce matin à vous approcher de Jésus seul et à ne compter que sur Jésus pour qu'il vous accepte, vous pardonne et vous ouvre le ciel. Maintenant, ce principe de vouloir plaire à Dieu par nos propres sacrifices, c'est ancré en nous, même après la conversion, même une fois qu'on est chrétien. C'est un réflexe dont on ne se sépare pas facilement. Parce que même en devenant chrétien, c'est-à-dire on a cru, on a vraiment accepté le Seigneur, le Saint-Esprit habite en nous, hein, eh bien, on est capable de recommencer à vouloir offrir nos propres sacrifices, à vouloir faire nos propres offrandes, nos propres, voilà, selon notre propre pensée humaine, selon nos idées. On se dit par exemple, ce qui doit plaire à Jésus, bah, c'est que je fasse ceci, c'est que je fasse cela, et que j'aille ici, et on veut donner le meilleur de soi-même. Oh Seigneur, je t'aime, vraiment, je vais te servir, tu vas voir tout ce que je vais faire pour toi. Je vais me donner, vraiment. Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut qu'on sacrifie tout notre temps, qu'on sacrifie peut-être notre sommeil, qu'on prie toute la nuit, qu'on fasse des efforts, vraiment? Et là, logiquement, là où Dieu attend peut-être ça, nous, on va faire ça. On va aller au-delà. Voilà, je t'offre tout. Je me souviens, quand j'étais jeune chrétien, je suis allé dans un camp chrétien. J'étais trop content. Ah, j'avais accepté le Seigneur. J'étais voilà. Et puis, je devais à un moment, vers la fin, à la fin du camp, je devais. On m'avait dit, est-ce que tu veux bien nettoyer, je ne sais plus, les couloirs, les salles. Et puis, alors, j'ai nettoyé, mais alors j'ai nettoyé pour Dieu, quoi, hein, vraiment. Au point que la réunion commençait, c'est-à-dire la dernière réunion, le dernier message, et moi je briquais, oh, elle était propre la salle. Hein. Mais est-ce que j'étais en train d'offrir un sacrifice qui plaît à l'Éternel? Est-ce que j'étais pas en train d'aller au-delà, finalement, de ce que Dieu me demandait? Et j'étais pas mieux à m'asseoir avec mes frères et sœurs pour écouter la parole? Et vous savez, parfois, eh bien, voilà, on veut faire au-delà. On se donne et on fait plus, bien plus que ce que Dieu demande. La semaine dernière, on a pris la scène ensemble et on a vu un texte qui était dans Hébreux. Et j'aimerais qu'on prenne ce texte, mais cette fois qu'on le prenne dans les psaumes. Parce que eh bien, c'est une citation des psaumes qui a été faite. Regardez, c'est dans l'Ancien Testament, c'est le psaume 40 et les versets 7 à 9. Psaume 40. Versets 7 à 9. Ici, il dit, « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens, avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Alors c'est un texte prophétique, hein. C'est David qui a écrit ce texte, et c'est bien sûr l'interprétation concerne notre Seigneur Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous l'explique, hein. Quand vous lisez ça, eh bien, vous voyez qu'en fait c'est Jésus-Christ lui-même qui dit, hein, Dieu n'a pas voulu un sacrifice animal, il n'a pas accepté ce sacrifice, alors voici je viens, mon Dieu, c'est moi qui m'offre en sacrifice. Ça c'est l'interprétation. Maintenant j'aimerais qu'on fasse une application de ce texte à nous-mêmes. Et ça va changer quelque chose, c'est instructif de le faire, l'appliquer à notre cœur. Pourquoi ? Parce que c'est David qui a écrit dans le psaume « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande ». Et c'est intéressant parce que David, mieux que personne, avait compris que l'important, c'était pas tant les sacrifices, que c'était le cœur, en fait. C'était à l'intérieur, c'était ce qui était en lui. Par exemple, dans le psaume 51, lorsque David a péché, vous vous souvenez, il a péché contre Bathsheba, et le psaume 51 est magnifique, c'est sa repentance. Hein. Mais il dit, versets 18 et 19, il dit, « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Et David avait conscience que l'important, c'était le cœur. C'était le cœur. Si tu avais voulu des sacrifices, ben, je t'en aurais offert. Mais non, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Et David avait le cœur brisé. Il avait le cœur brisé. Brisé d'avoir trompé son soldat, Uri, brisé d'avoir commis cet adultère, brisé d'avoir fait tuer, finalement, en l'envoyant au front, il était brisé dans son âme. Et c'est ce que Dieu attendait, un cœur brisé et repentant. C'était sa volonté. Alors j'aimerais qu'on reprenne ce texte du psaume 40. Hein, et c'est toujours David qui dit inspiré, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. » Pourquoi dit-il « Tu m'as ouvert les oreilles » Et je vous pose la question, aurions-nous besoin que Dieu nous ouvre les oreilles. Et oui, on a besoin qu'il le fasse. On a besoin qu'il le fasse. Parce que le problème, c'est que l'homme n'entend pas son Dieu. Il n'entend pas. Regardez, Jésus qui disait hein, que celui qui a des oreilles entende. Et il le répète, et il le répète. Parce que l'homme a du mal à entendre Dieu. Comme Caïn. Caïn n'a rien voulu entendre. Il a fait selon ses propres pensées. Il s'est dit, je sais ce qu'il faut faire. Et je le fais. Et quand on est chrétien, eh bien on est pareil. On est identique. On peut avoir le Seigneur dans notre cœur. On est sauvé. Et on a les oreilles fermées. Et on n'entend pas ce que Dieu attend de nous. Alors on se dit, je suis au Seigneur, je vais le servir, c'est bien. Hein? Et puis je vais faire ça, et je vais faire ci. Et on se lance tête baissée, mais on n'a rien attendu et entendu de Dieu. Voici mon sacrifice, ô Dieu, pour te plaire, pour t'être agréable. Est-ce que c'est bien ce que Dieu demande ? David écrit, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire, alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. » Et qu'est-ce que ce rouleau du livre écrit pour moi ? C'est la Bible, c'est la Bible bien sûr, hein ? C'est la parole de Dieu. Le livre, le rouleau qu'il avait entre les mains, mais c'était la parole de Dieu. Ces choses ont été écrites pour qui ? Pour nous. C'est pour nous. Alors, eh bien, tu m'as ouvert les oreilles et voici, je tiens le rouleau du livre écrit pour moi. Et on peut dire que ça, c'est la bonne, c'est ici la bonne volonté de celui qui vient avec la pensée de Dieu entre les mains. Il a une bonne volonté, mais il a aussi la parole de Dieu entre les mains. Alors, eh bien, il peut dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Voilà, qu'est-ce que tu veux pour moi ? Je ne veux pas faire mes propres pensées. Je ne veux pas agir selon ma propre volonté. Je veux faire ce que toi, tu me demandes. Et il faut lire. Seigneur, ouvre mes oreilles. David, enfin, psaume 40, au verset 9, dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Là, vous avez la saine attitude. Hein. Il ne cherche pas selon ses propres pensées, ses idées personnelles, non. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et on a tous besoin, si on est chrétien, d'avoir un profond désir de ne faire que la volonté de Dieu. Il faut qu'on ait ce désir, que la volonté de Dieu. Jésus nous a enseigné cela. Quand il a dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et puis, il réitère, il le redit, en Jean 4, quand il est au puits de Sichar, qu'il y a ses disciples qui reviennent, il est avec la Samaritaine. Qu'est-ce qu'il va dire ? J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et on voit Jésus, il ne veut faire que la volonté de Dieu, tout le temps. Et c'est là où il mettait tout son plaisir en fait. Hein. C'est ça qui le réjouissait, c'est ça qui le rassasiait, c'était son pain, ça le contentait. Et ça contente, vous savez. Quand vous faites la volonté de Dieu, vous êtes dans le contentement. Vous avez besoin de rien de plus. Seigneur, tu me demandes de faire ça, je fais ça. Tu me demandes ça, je le fais. Et il y a de la joie de faire que la volonté de Dieu. Est-ce qu'on a un désir profond de ne faire que la volonté de Dieu ? David dit ensuite, « Ta loi est au fond de mon cœur. » Et on ne peut pas comprendre, hein, discerner la volonté de Dieu si sa loi, elle ne reste pas là en nous. Et on la lit, et on la relit. C'est la Bible, finalement, qui est un garde-fou, qui va nous garder de nos excès, de nos erreurs, de notre chair, de nos pensées. C'est elle qui fait le tri, qui voilà, élague, qui dit non, qui dit vas-y. C'est la parole de Dieu. Alors, servir, oui, mais servir dans ce qu'il attend vraiment de nous. Et j'aimerais prendre un autre passage. C'est 1 Corinthiens 3, versets 11 à 15. Mais on va lire d'abord verset 11. 1 Corinthiens 3. Verset 11. Il dit ici, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Et dans ce verset, Jésus nous enseigne que le seul fondement sur lequel peuvent reposer nos œuvres, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Mais le malheur, c'est qu'on pose un autre fondement, ça va être le fondement de nos pensées, voilà, nos idées. Le fondement parfois de notre ambition, le fondement de notre orgueil, le fondement de notre désir d'être en avant, le fondement de la chair, voilà, le fondement du passé parfois aussi. Et il n'y a qu'un seul fondement valable, un seul qui compte, c'est celui de Jésus-Christ, celui de sa volonté. Je pensais à un autre verset qui est dans le prophète Jérémie. Peut-être vous avez lu ce verset, peut-être vous l'avez souligné dans votre Bible. Il dit « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » C'est Jérémie 10, 23. « Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Ce n'est pas à lui de décider. De toute façon, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Il ne pourra jamais faire vraiment tout ce qu'il veut. Parce que moi, l'Éternel, je suis là. Mais le meilleur, c'est quand il comprend de lui-même, mais en fait, je vis pour Dieu et pour faire sa volonté. Et j'ai pas à diriger mes pas moi-même et à tout décider tout seul. Non, je veux faire ta volonté. Alors, la suite dit, donc versets 11 à 15, 1 Corinthiens 3, « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. » Et on voit qu'il y a deux types de matériaux que l'on peut employer pour construire quelque chose, ici sur Christ, le fondement. Des matériaux qui sont précieux, qui sont durables, et puis des matériaux qui sont peu de valeur, qui sont éphémères. Alors d'un côté, c'est l'or, c'est l'argent, c'est les pierres précieuses, c'est des matériaux nobles, rares, coûteux, qui ont beaucoup de valeur. Et il en faut très peu finalement pour avoir quelque chose qui compte. Il y a des œuvres que nous faisons, il y a des paroles que nous disons, des gestes que nous offrons, qui ont une réelle valeur. Pas parce que l'action ou le geste en lui-même est précieux, mais ce qui le rend précieux, c'est que ça repose sur le fondement, Jésus-Christ. Ça signifie que c'est Christ qui est en train de faire l'œuvre, c'est lui qui est en train d'agir. C'est ça qui donne de la valeur à nos œuvres. C'est inspiré et conduit par lui. Et quand Christ fait quelque chose, l'homme n'y est strictement pour rien. Et il ne peut même pas en tirer gloire, en fait, parce qu'il est carrément extérieur. C'est lui qui le fait. Ce n'est pas moi qui vis, Paul dit. C'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est lui qui le fait. C'est son œuvre et non la nôtre. C'est sa volonté et non la nôtre. Et c'est ça qui rend l'œuvre pure. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien, absolument rien. Rien de valable. C'est ça que ça veut dire. On a besoin que Christ inspire ce qu'on dit, ce qu'on fait. Alors seulement, nos œuvres, elles deviennent de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, parce qu'elles sont bâties sur le fondement Christ. Et puis de l'autre côté, il y a le bois, il y a le foin, il y a le chaume. C'est pas quelque chose qui est sans valeur. Ça a quand même un peu de valeur, mais qu'est-ce que c'est à côté de l'or, des pierres précieuses? Vous savez, il suffit d'une petite émeraude ou un petit rubis, pas plus grand qu'une balle de ping-pong, et vous savez, vous êtes immensément riche. Et combien il faudrait de bois, de foin, de chaume? C'est l'Amazonie, Paul nous parle ici de matériaux qui sont très volumineux. Ça prend du volume, une balle de foin. Ça se voit, ça remplit l'espace, mais ça ne vaut pas grand-chose. Il y a de l'air, il y a beaucoup d'air, c'est rempli de vide. Et là, là Paul fait référence aux œuvres charnelles, en fait, aux œuvres qui viennent de nous-mêmes, hein, qu'on peut faire en tant qu'enfant de Dieu. Et parfois, on sert le Seigneur, oui, mais selon nos plans, selon nos pensées. Et on va à droite, et on va à gauche, et on fait ceci, on fait cela. C'est très volumineux, mais ça n'a peut-être pas autant de valeur que ça. Parce que ça ne repose pas sur Jésus-Christ. Ce n'est pas sur le bon fondement. Et si ce n'est pas inspiré, si ce n'est pas animé, si ce n'est pas porté par le Seigneur, eh bien, voilà, ça n'a pas de valeur. Maintenant, gardons-nous de juger les autres, hein, en regardant les œuvres ou les paroles un peu trop, de manière un peu trop stricte ou abrupte, hein. On l'a vu la semaine dernière, on est prompt à juger. Hein. Ça part vite. Il est dit que Dieu, de toute façon, éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Hein. Car le feu, eh bien, manifestera et montrera la réalité. C'est au retour de Christ, hein, où on passera tous au travers du feu. Et on sait ce que le feu fait sur le bois, la paille et le chaume. Alors, versets 14 et 15, 1 Corinthiens 3. Il dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et donc, c'est le feu qui va révéler nos œuvres, toutes nos œuvres. Et on ne recevra une récompense que si, eh bien, nos œuvres passent au travers du feu, demeurent en fait, hein, parce qu'elles ont été accomplies sur le fondement Jésus-Christ. On voit l'or, l'argent, les pierres précieuses passent le feu, le bois, le foin, le chaume sont consumés. Et il dit, pour lui, il sera sauvé, pour ce deuxième. Pour lui, il sera sauvé. Et là, voilà, ça ressouligne l'idée, le salut est définitif. C'est définitif. Hein? Même si on est infidèle, il y a des chrétiens qui peuvent être très infidèle, longtemps infidèle, dans la durée infidèle, mais vraiment, on voit qu'ils ont accepté Jésus-Christ, néanmoins, hein, eh bien, ils passeront au travers du feu, ça sera consumé, mais ils seront sauvés, parce que Dieu demeure fidèle. Mais ils n'auront rien dans les mains, rien, tout sera brûlé. Alors peut-être certains chrétiens se disent aujourd'hui, ceux qui vivent souvent dans l'infidélité, ils se disent, oh bon, vous savez, les récompenses, j'en ai pas besoin. Pourvu que je sois sauvé, tout va bien. Alors peut-être on peut dire ça ici. Hein. Tant qu'on est entouré de pécheurs qui sont pires que nous, parfois, hein, ou de chrétiens parfois qu'on trouve comme nous, hein, qui sont dans les mêmes infidélités, on se dit, oh, c'est pas très grave. Mais qu'est-ce que ça va être le jour où on est au ciel et on est entouré des saints qui sont purs, brillants, lumineux, enrichis, hein, de la présence et de la gloire parce qu'ils ont été fidèles. Et si aujourd'hui on se fonde dans la masse des gens impies, quand on sera au ciel, on sera au milieu des saints. Et là peut-être on se dira, mince, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ai-je eu la folie de rester dans mon infidélité? Parce que, ben voilà, hein, on verra la réalité aussi de ce qu'a été notre vie sur terre. Quels sacrifices aurons-nous offerts au Seigneur? Est-ce que ça aura été le sacrifice d'une vie qui est consacrée, d'une vie ayant cherché sa volonté en toute chose? Si nos jours auront été vécus dans la fidélité, le renoncement, crucifié avec lui, alors eh bien, on aura des trésors. On sera récompensé pour cette fidélité. Alors ce matin, dans le culte, il y a des versets qui ont été partagés sur les sacrifices. Hein. Il y en a quelques-uns. Et si on cherche dans les Écritures les sacrifices qui plaisent à Dieu, on va en trouver quelques-uns. Hein, notamment dans l'Ancien Testament, on va trouver un esprit brisé et contrit. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. On va trouver le fruit de lèvres qui confesse son nom. Hein, c'est sacrifice qui plaît à l'Éternel. On va trouver aussi des actions de grâce, comme Cathy nous a lu tout à l'heure. Hein. Voilà, tout ça, c'est des sacrifices qui plaisent à l'Éternel. Et quand vous lisez le Nouveau Testament, eh bien, il y a aussi un sacrifice qui plaît particulièrement à l'Éternel. C'est dans l'Épître aux Romains. Vous connaissez ça? C'est Romains 12, versets 1 et 2. Je vous le lis. Et ici, dans ce passage, Dieu nous exhorte à quoi faire? À offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et Paul continue, il dit, ne vous conformez pas, ne prenez pas la forme du monde, hein, du siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quoi? La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ça qui est important. S'offrir en sacrifice vivant, mais discerner la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? C'est vraiment important. Dieu ne veut pas qu'on essaye par nos propres pensées. Il ne veut pas qu'on offre notre plus belle corbeille de fruits, la corbeille de nos œuvres, de nos sacrifices, de nos capacités naturelles. Non, ce qu'il veut pour commencer, c'est ouvrir nos oreilles. Qu'il ouvre mes oreilles, d'abord. Qu'il parle à mon cœur, par le livre, hein, qu'il a écrit pour moi. Et j'aimerais terminer avec un dernier passage dans les Proverbes. Proverbes 22, 17 à 21. Proverbes 22, 17 à 21, il dit ici, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire. Aujourd'hui, oui, toi, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Celui qui t'envoie. Dieu veut nous envoyer, hein? Et c'est écrit. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit. Il nous a choisi, il veut nous envoyer. Mais avant cela, au verset 17, il dit, prête l'oreille. Écoute les paroles des sages. D'abord, elles sont contenues ici. Applique ton cœur à ma science. Hein? Voilà, conforme ta vie à ma pensée. Applique ton cœur. Garde-les au-dedans de toi. Qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Voilà, que ça déborde parce que tu la lis, parce que tu l'aimes. Et la parole de Dieu doit habiter en nous. Il faut la lire, il faut chercher à la comprendre, la connaître. Afin quoi? Afin que notre confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire. Aujourd'hui, oui, toi, il nous parle personnellement. Quelle promesse merveilleuse, hein? Dieu veut s'occuper de chacun d'entre nous pour nous enseigner des paroles sûres, des paroles vraies. Alors, eh bien, on pourra être utile. On pourra le servir. Et on pourra dire, je veux faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. On va s'incliner dans la prière. Seigneur, merci de ces moments et merci pour ta parole. Seigneur, qu'elle est merveilleuse. Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas laissés tout seuls. Tu nous as donné non seulement l'esprit, mais aussi ta parole vivante. Cette parole qui est notre guide, notre boussole, notre corde à laquelle nous pouvons nous accrocher et la suivre pas à pas. Merci. Seigneur, bénis-la, bénis ton Église, bénis tes enfants, bénis chacun ici qui veut progresser avec toi, qui veut ouvrir ses oreilles et entendre ce que tu veux lui dire. Seigneur, que tu le fasses pour lui, que tu répondes à la prière de son cœur. Seigneur, bénis-nous et que nous marchions avec toi, nous aimant les uns les autres et te servant pour ta gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Il y a un chant que j'aimerais que l'on chante, mais on n'a pas la musique. On n'a que quelques accords. Alors, on va le chanter avec la guitare. Donc, c'est « Je t'instruirai ». Révèle-moi, Seigneur, quelle est ta volonté. Je veux marcher sans peur, compter sur ta bonté. Malgré les meurtrissures et malgré le péché, tant que le chemin dure ensemble, on peut marcher. Je t'instruirai, je t'enseignerai le chemin où tu devras marcher. Ne crains rien, demeure auprès de moi. Ce chemin, j'y suis passé avant toi. S'il faut un peu souffrir pour que s'ouvrent les cieux, mon Sauveur vint s'offrir à mon tour, je le peux. Si ce chemin de foi est semé de douleurs, c'est celui de ta croix, il n'en est de meilleur. Je t'instruirai, je t'enseignerai le chemin où tu devras marcher. Ne crains rien, demeure auprès de moi. Ce chemin, j'y suis passé avant toi. Parfois viendront des pleurs dans mon cœur altéré, mais avec toi vainqueur, comment désespérer. Ce sentier est étroit, ardu et périlleux, mais au bout c'est mon roi qui m'attend, gloire à Dieu. Je t'instruirai, je t'enseignerai le chemin où tu devras marcher. Ne crains rien, demeure auprès de moi. Ce chemin, j'y suis passé avant toi, avant toi. Bien. Alors j'aimerais juste vous